Radio Okapi. Oh, Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Messe d'action des grâces ce samedi en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola en Mbujimayi. Objectif, selon l'évêque du diocèse, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, prier pour la RDC, son président, les FRDC, mais aussi soutenir les actions de développement du pays. Plusieurs quartiers de Lubumbashi sont dans les noirs suite à une tentative de vol des câbles électriques. 3 des 7 malfrats qui voulaient voler les câbles haute tension dans les territoires de Kipushi sont morts électrocutés. Notre invité, c'est le président de la coopérative des producteurs de café du Sud Kivu, Gilbert Makelele, affirme que le territoire insulaire d'Idui produit 2000 tonnes de café par an, ce qui rapporte près de 9 millions de dollars américains. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masserica, Jean-Noël Mokondo est sur les manettes. Une messe d'action des grâces a été célébrée ce samedi en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola en Mbujimayi par le Conseil de l'Apostolat de laïcs catholiques. Objectif visé selon l'évêque du diocèse, prier pour la RDC, le président Félix Tshisekedi, les FRDC, mais également soutenir les actions de développement du pays. Le compte-rendu d'Esther Ndalafina.
Plus de 1000 personnes de différentes tendances politiques ont participé ce samedi à la messe dite par l'évêque du diocèse de Mbujimayi en la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste de Bonzola dans la commune de Lakanchi. Bien avant les jours prévus pour cette messe, quelques communiqués ont été diffusés sur le média et les réseaux sociaux appelant les hommes et les femmes épris du patriotisme, de paix et de bonheur de la RDC à prendre part à cette grande messe. Monseigneur l'évêque Emmanuel Bernard Kassanda a remercié les autorités politiques et administratives, les chrétiens et les différentes confessions religieuses, ainsi que les habitants de Mbujimayi, venus nombreux prier pour la nation et le chef de l'État.
Nous allons continuer toujours à prier pour notre nation, afin qu'elle soit unie. Nous allons continuer toujours à prier pour les dirigeants de cette nation, afin qu'en tout et pour tout, les restes de cette unité et la paix tant chèrement acquises et que nous devons garder jalousement. Nous prierons aussi pour les forces de l'ordre qui travaillent pour nous sécuriser. Ayons à cœur de prier pour eux à temps à contre-temps.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Politique encore, la province du Maniema est mobilisée pour soutenir le président Félix Tshisekedi et la nouvelle équipe dirigeante de la CENI. Déclaration faite ce samedi à Kindu par le gouverneur intérimaire, c'était à l'issue d'une marche pacifique organisée par le gouvernement provincial. Les propos d'Alfani Inri Samangala ont été recueillis à Kindu par Florence Kizalunga.
Notre province est mobilisée pour soutenir d'abord les actions du président de la République et ensuite soutenir la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI. Donc c'était une façon de montrer à la face du monde que la CENI qui a été investie par le président de la République est une CENI consensuelle qui renferme le consentement de la population congolaise. C'est pourquoi vous avez vu la province du Maniema tout entière mobilisée derrière le président de la République, mobilisée derrière cette équipe de la CENI pour nous amener aux élections de 2023 dans les respects constitutionnels. Non, moi je pense, vous-même vous êtes témoin, le Maniema est entre les mains du président de la République. Plus de matchs. Donc on ne peut plus parler d'une autre force politique dans la province du Maniema en dehors de l'Union sacrée. C'est un message d'aveu, d'acceptation d'abord de sa philosophie. Donc le Maniema est prêt à accompagner le président de la République dans toutes ses actions. Plus question de tergiverser, plus question de faire marche arrière, mais nous voulons dès maintenant que toutes les actions que la CENI va mener se veulent nous amener aux élections de 2023.
Et puis l'Union républicaine a un nouveau président. Ce jeune parti politique de l'Union sacrée de la nation se prépare aux élections de 2023. Son fondateur Luc Gérard Gnaffé a cédé son fauteuil à Jean-Louis Nsiku Saïla ce samedi ici à Kinshasa. Il promet de vrai pour faire partie des dirigeants de demain en RDC. Il est au micro de Richard Junior Kamunga.
Notre cher parti prône le libéralisme ainsi que nos 12 valeurs. qui sont la démocratie et la citoyenneté, le libéralisme et la libre entreprise, la bonne gouvernance, la justice, l'égalité, la liberté, la solidarité, la responsabilité, la discipline et l'intégrité, la diversité, la compétence et le respect de l'environnement. Pour moi, ceci est notre langage machine, ou encore notre software, c'est-à-dire que notre vie publique, politique et comportementale devront être dirigées par les 10 langages. Notre référence, donc notre mode de fonctionnement. Il ne sera plus tolérable et acceptable à partir de cet instant qu'un puriste intervienne dans une quelconque discussion publique ou débat sociétal en interne ou en externe sans avoir eu la bonne maîtrise du dit langage.
Dans un autre chapitre, plusieurs quartiers de la ville de Lubumbashi sont dans le noir depuis la nuit dernière. C'est suite à une tentative de vol des câbles électriques par des inciviques. Pendant ce temps, 3 de 7 personnes qui voulaient voler les câbles haute tension à Tumbwe dans le territoire de Kipushi sont morts électrocutés. À Lubumbashi, c'est une correspondance de Jean Gandou.
Les quartiers touchés sont entre autres Gambela 1, Gambela 2, Gambela 3, les cités universitaires et autres. D'après les responsables de la SNEL, cette coupure est intervenue lors de la tentative de vol de câbles sur la ligne qui va du répartiteur sud vers le poste Unilum, ce qui a provoqué un court-circuit car les câbles ont touché au pylône. Pour le moment, les agents de la SNEL sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation. Ceci intervient 48 heures seulement après l'électrocution de plusieurs personnes qui tentaient aussi de voler les câbles haute tension au village Tumbwe dans le territoire de Kipushi. Une personne est décédée sur place. 2 des 5 autres qui étaient grièvement blessés ont succombé au cours de la journée de ce vendredi. 2 de leurs collègues qui n'ont pas été touchés ont pris les larges. Les câbles en cuivre qui sont volés sont vendus dans les usines de fonderie. Pour rappel, dans un passé récent, de nombreux pylônes transportant les câbles haute tension ont été vandalisés sur la route des contournements dans la commune annexe à Lubumbashi, ce qui a perturbé la desserte de l'énergie électrique dans plusieurs coins de la ville, mettant aussi à mal les économies de plusieurs entreprises. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis, management public dans une régie financière congolaise, esquisse d'un modèle de mobilisation et maximisation des recettes administratives, judiciaires et domaniales et de participation. C'est le sujet d'une thèse de doctorat qui a été soutenue jeudi dernier à l'université de Kinshasa. C'est confiant à la presse ce samedi. Ignace Ngoyi Mukanya, l'auteur de cette thèse, a appelé tous les Congolais au civisme fiscal afin de donner à l'État congolais les moyens de sa politique. Il le dit à Paul Matendo.
Il y a le problème de manque de respect de l'article 35 de cette ordonnance loi qui demande que les recettes soient recouvrées à leur lieu de constatation et de liquidation. Parce que ce sont ces lieux-là, la base, qui connaît les réalités des entreprises qui sont censées payer les recettes. Mais sûr, ça doit être constaté, liquidé ailleurs par les gens qui ne maîtrisent pas la matière. Et qui, sur les lieux de constatation, ça crée des problèmes. Nous avons le problème des imprimés de valeur, comme je viens de vous le dire. Nous avons aussi les cas de taxation d'office, parce que la DGRAD a reçu mandat, a les prérogatives de passer à la taxation d'office lorsque le service d'assiette n'a pas fait son travail en amont. Nous avons besoin que tout le monde puisse avoir le civisme fiscal, la culture fiscale, pour donner les moyens à l'État pour réussir sa politique.
Revenons un instant au Maniema où le gouverneur intérimaire a entamé ce week-end des négociations avec les syndicalistes en vue de la reprise des cours lundi prochain dans les écoles publiques de sa province. Inrissa Alfani Mangala promet également de trouver une solution aux revendications des enseignants. Reportage à Kindu de Florence Kizalunga.
Selon les souhaits de l'autorité provinciale, cette réunion de négociation avait pour but de trouver les voies et moyens pour que la reprise des cours soit effective le lundi prochain. Les délégués syndicaux promettent de faire la restitution des résolutions aux enseignants avant de parler de la reprise ou pas des cours. Maulumanda Mukute.
Après échange, on est arrivé à comprendre la main tendue de l'autorité. Bien sûr, nous représentons la base, mais c'est la base qui a les derniers mots. Donc, nous sommes tenus de rentrer à la base, de restituer ce qui a été décidé et de faire voir à cette base la main l'étendue de l'autorité et quelle est l'amabilité de comprendre et d'exaucer la demande de l'autorité pour que les cours reprennent le lundi. Et si la base me comprend, je pense qu'il n'y aura pas de soucis.
Jouant le rôle de médiation, le député provincial Victor Kikuni plaide pour l'intérêt des enfants.
En tant qu'élu du peuple, je suis en train de défendre à la fois l'intérêt des enfants qui restent à la maison sans pour autant étudier, au même moment l'intérêt des enseignants qui prestent sans être payés normalement. Donc moi je voudrais que les enseignants commencent à donner cours et que le gouvernement provincial et le gouvernement central voient dans quelle mesure réhabiliter les enseignants dans leurs droits. C'est ce qui va permettre à ce qu'il y ait la paix sociale, la cohésion et pourquoi pas tenir compte de l'avenir de la province, parce que si les enfants n'étudient pas aujourd'hui, ça sera une bombe à retardement dans les jours à venir que ça va exploser.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Et puis le président de l'intersyndicale des enseignants de la province éducationnelle du Kwilu 2 appelle le gouvernement congolais à trouver une solution urgente aux revendications des enseignants pour leur permettre d'exercer leur métier au service des enfants. Cette requête a été formulée alors que les enseignants sont toujours en grève. Benoît Kassiamea a été joint par Irène Boma.
Les enseignants ont répondu la grève. Il y a eu un grand débat, ils étaient nombreux à l'Assemblée. Les enseignants ont même soulevé des points. Quand les enseignants vous disent, par exemple, que notre ministre de l'EPST a un langage arrogant envers nous, les enseignants, il n'a aucun respect des enseignants. Il ne fait que des menaces à l'endroit des enseignants. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas reprendre le chemin de l'école tant que leurs revendications ne sont pas encore satisfaites. Pour les sort des enfants, nous pensons que à l'heure qu'il est, c'est l'État congolais qui doit savoir réfléchir mieux que nous. Nous sommes des agents de l'État. Nous avons nos droits. Les enfants que nous aimons bien, nous devons les éduquer. Mais on ne doit pas continuer à sacrifier l'enseignant pour les enfants. Que l'État congolais paye les enseignants pour que les enfants puissent étudier dans de très bonnes conditions. En ce moment-là, nous aurons rendu un bon service à nos enfants. Sinon, avec des demi-solutions comme ça, nous sommes toujours en train de faire en sorte que nos enfants soient des voyous à venir.
Et en Mbandaka, plus de 1000 militaires et leurs dépendants ont été vaccinés hier vendredi après-midi contre la fièvre jaune. C'est à la faveur d'une campagne de vaccination préventive des habitants de cette partie de l'Équateur. Le chef d'antenne du programme élargi des vaccinations Mbandaka s'est dit satisfait de l'issue de cette campagne de vaccination. Docteur Jean-Robert Isanjola est au micro de Paul-Richard Malengela.
Les hommes en uniforme, en soi, c'est une population spéciale pour nous. Et nous remercions vraiment les autorités militaires de la 13e région. Elles ont sensibilisé également leurs troupes pour que tous les militaires ainsi que leurs familles soient vaccinés. Donc après la parade, nous avons vu les militaires, ils se sont fait vacciner avec leurs épouses, leurs enfants. C'était quelque chose de formidable pour laquelle nous jetons des fleurs aux autorités de la 13e région militaire. La cible attendue était de 700, c'est-à-dire militaires, épouses et enfants. Nous sommes allés au-delà de 1000 vaccinés parmi les militaires et leurs dépendants. Oui. Bien, nous vous garantissons que ça, c'est un vaccin très sûr. Et surtout, auprès de nos militaires, on ne peut pas donner de n'importe quoi. Nous connaissons la grande tâche qui est la leur. Donc, aux militaires et à toute la population, l'État met à disposition des interventions extrêmement sûres, rassurantes. Donc, nous n'avons rien à craindre. Vraiment, nous garantissons à toute notre population que nous avons un vaccin très sûr, accepté mondialement et qui n'entraîne aucun problème de santé majeur.
Notez que cette campagne de vaccination va se poursuivre la semaine prochaine dans les 15 autres zones de santé de la province de l'Équateur.
Actualité internationale.
La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ce sont plus de 26 millions d'habitants et un produit national brut de près de 45 milliards de dollars américains. C'est aussi la première puissance économique de la zone de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Le pays se trouve au cœur des stratégies de défense et de sécurité régionale. Sa stabilité et sa vision d'une Afrique moderne sont essentielles à la sous-région. Le pays d'Alassane Ouattara vient de boucler cette semaine un emprunt des milliards d'euros avec un taux d'intérêt de 5%. Le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies plaide pour le retour immédiat du gouvernement civil au Soudan après le coup d'État survenu le 25 octobre. La haute commissaire des droits de l'homme, Michelle Bachelet, a dénoncé ce week-end les tirs à balles réelles contre les manifestants à Khartoum, la capitale, des tirs qui ont coûté la vie à 15 personnes et plus de 300 blessés. Des négociations sont en cours à Khartoum avec de nombreux médiateurs nationaux et étrangers pour tenter de rétablir la transition. Parmi les pistes qui sont étudiées, un gouvernement des technocrates mené par Abdallah Hakdok, le premier ministre en résidence et surveillé pour le moment. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé entre les civils et les militaires. Si les médiateurs étrangers et nationaux cherchent à pousser les généraux au retour au statu quo, les militants qui manifestaient ne l'entendent pas de cette oreille.
L'invité.
Notre invité, c'est le président de la coopérative des producteurs novateurs du café de la province du Sud-Kivu. Gilbert Makelele affirme que le territoire insulaire d'Idui produit 2000 tonnes de café par an. Cette production rapporte près de 9 millions de dollars américains. Il s'entretient avec Emmanuel Elamejo Kabili.
Monsieur Gilbert Makelele, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Emmanuel.
Alors, parlez-nous des activités de café dans l'île d'Idui, où vous êtes basé ces derniers temps. Comment ça se passe?
Actuellement, nous sommes sur l'île d'Idui. Nous sommes en train d'inaugurer les laboratoires modernes du café. Désormais, la province du Sud-Kivu a un laboratoire du café basé au territoire d'Idui. Et nous venons également, par l'entremise de l'ONAPAC, l'île d'Idui vient d'avoir les codes 015 attribués par l'Organisation internationale du café. Et donc désormais, l'île d'Idui pourra exporter son café directement de l'île d'Idui vers l'Europe, vers les États-Unis, sans passer par Goma ou Bukavu. Et donc, désormais, nous n'allons plus continuer à envoyer nos échantillons de café en Belgique, parce que ça nous coûtait trop cher pour envoyer un échantillon en Belgique. On était en train de payer autour de 148 dollars l'envoi d'un échantillon pour analyse. Et si vous devez ajouter également autour de 250 euros pour faire l'analyse, ça nous prenait assez d'argent. Mais désormais, c'est un travail qui sera fait au niveau local. Deuxièmement, il y a la jeunesse. Donc, c'est un centre de formation, c'est un centre d'apprentissage. Donc, désormais, toute la jeunesse de l'île d'Idui, de Kabare, Kalene, même de la province Fère du Nord Kivu, pourrait envoyer des jeunes à Idui pour l'apprentissage. Désormais, avec la présence de notre laboratoire ici, si le café a titré 85% à Idui, nous allons garder les résultats obtenus au niveau de l'île d'Idui. Et lorsque les conteneurs vont partir, nous allons accompagner ces conteneurs avec les résultats du café pour nous éviter des contestations lorsque le café va arriver à la destination finale, pour nous éviter des pertes d'argent après.
Vous parlez, président Gilbert Makelele, vous parlez des conteneurs qui partent. C'est quelle quantité de café que produit l'île d'Idui, par exemple, par an?
En fait, l'île d'Idui a la capacité de production de 2000 tonnes de café, soit 105 conteneurs de café. Donc, si toute la production du café de l'île d'Idui est correctement contrôlée, l'île d'Idui, avec les 2000 tonnes, soit 105 conteneurs de café, ça vous donne un montant de 9 millions de dollars. Mais il y a encore des défis à relever. Donc, au niveau du gouvernement central, on a parlé des intentions de la création d'une banque de crédit agricole. Et donc, nous sommes en train de lutter contre la fraude de notre café vers le Rwanda. Mais il ne sera pas facile de continuer à lutter contre la fraude du café vers le Rwanda si nous n'avons pas l'accès aux finances. Et donc, au niveau du gouvernement central, nous leur demandons d'accélérer la mise en place de cette banque qui a été promise par le Premier ministre lors des États généraux de l'agriculture, parce que nous devons avoir suffisamment de prêts pour acheter ou collecter toute la production de nos producteurs de café au niveau de l'île d'Idui, au niveau de ses environs, notamment Kabare et Calais également.
Peut-être pour terminer, vous parlez de tout l'argent que ça peut rapporter si tout allait par la voie normale, une centaine de conteneurs par an. Qu'est-ce que ça rapporte aux membres de votre coopérative au retour? Qu'est-ce qu'ils gagnent?
Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. C'est une très très bonne question. Tout de suite, je dois d'abord vous dire que les mamans d'abord sont très contentes parce que leur mari ne quitte plus la maison pour aller mourir dans les lacs Kivu. Avant l'avènement de la coopérative, les papas quittaient avec le café à bord des pirogues en train de ramer vers le Rwanda. Et très souvent, nombreux mouraient à bord de ces pirogues-là par noyade, naufrage ou des fois même par braquage. Et donc, avec l'avènement de la coopérative, il y a d'abord le marché local. Donc, le marché est là, vous produisez votre café de spécialité. Tout de suite, la coopérative vous donne l'argent à partir même de la maison. De deux, lorsque nous avons lancé la coopérative sur l'île d'Idjoui, l'un kilo de café coûtait 500 francs congolais. Mais aujourd'hui, les kilos avoisinent 2 dollars. Lorsque le maman, avec le papa bien sûr, termine à cueillir les cafés, elles amènent les cafés au niveau de la vache des cafés, c'est fini. La maman est dégagée, elle peut faire autre travail. Voilà un peu ce que nos producteurs sont en train de gagner actuellement.
Monsieur Gilbert Makelele, nous vous disons merci.
Merci beaucoup à la Radio Okapi.
C'était l'invité de Radio Okapi ce soir, le président de la coopérative des producteurs novateurs de café du Sud Kivu, Gilbert Makelele, était interviewé à Bukavu par Emmanuel Elamejo Kabedi. Il est 18h20 à Kinshasa, c'est la fin de cette édition d'information coordonnée par Richard Junior Kamunga sous la supervision éditoriale de Ben Kabamba. Retrouvez cette édition d'information sur www.radiokapi.net.